no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Des gens très divers chez les observateurs, etc. C'est ce qui fait notre richesse d'ailleurs, etc. Mais en tous les cas, pour l'objet qui nous rassemble, il est clair et net. On ne mélange pas les genres. Tout. Mais par contre, tout d'ailleurs, dans notre premier rapport, où on a largement décrit ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, il y avait une phase à la fin du rapport qui était une phase analytique, hein, dans laquelle on a analysé bien évidemment ce qui se passait. Et notre deuxième rapport a été très largement consacré au nouveau schéma des maintiens de l'ordre de Darmanin et de ce qu'on pouvait en déduire sur la manière de penser politiquement ce que c'est que la police, la gendarmerie et la notion de la violence. Donc, tout. Donc, quand on revient un petit peu à ça, on a un truc. Après, il y a une deuxième chose que je voulais dire. Alors, c'est un peu en décalage par rapport au thème qu'on est en train de développer, mais je ne voudrais pas l'oublier de le dire. Il y a eu un changement fondamental dans le maintien de l'ordre en France. D'ailleurs, Sainte-Soline n'est pas une opération de maintien de l'ordre, c'est une opération militaire. Ce n'est pas du tout pareil. Hein. Mais je reviens à tout. Il y a un remarquable livre que j'engage tous les auditeurs à lire, à acheter. Dans mon jeune temps, on aurait dit aller le voler. Non, il ne faut pas le voler, il faut l'acheter.
À la joie de lire, mais...
Ouais, c'était Maffero à l'époque, enfin bon, ça, au plus vieux, ça rappellera quelque chose. Comment couler une librairie militante avec des mauvais slogans. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ce livre, il s'appelle « Politique du désordre, la politique des, politique des ordres, la politique, le suivi des manifestations en France ». Le titre est à peu près celui-là, c'est, vous trouverez « Fabien Jobard, Olivier Filleul ». D'accord. Il fait le point sur historique sur le maintien de l'ordre en France. Il rappelle des choses assez succulentes. Mais je ne vais pas vous les dire. On y reviendra.
Faut pas spoiler.
Voilà, j'ai pas spoilé. Simplement, il explique une chose importante. Pendant les années 70-80, le maintien de l'ordre en France, toujours ce terme très ambigu, mais pas important, on va l'utiliser, c'est le terme usuel, était fait par des policiers dont c'était le cœur du métier, c'était effectivement le suivi des manifestations de rue, l'organisation de la sécurité des manifestations. Il y avait une culture qui était issue d'ailleurs de mai 68 pour beaucoup, bon, je vais pas revenir là-dessus et tout. Et donc c'est des policiers, par exemple, un commandant, un capitaine des CRS ou un commandant des CRS nous a dit, devant la préfecture, au moment des Gilets jaunes, un soir où les observateurs se repliaient après une manif, et on s'est arrêté pour discuter avec les CRS. Un CRS nous a dit, moi, mon métier, c'était un vieux CRS, nous a dit, mon métier à moi, ça consiste à faire que l'intervention que nous avons dans la manifestation ne provoque pas plus de désordre que ceux que la manifestation produit elle-même. Et ça veut dire qu'il nous disait, peu importe s'il y a une vitrine qui est taguée, un abribus qui saute, Si notre intervention doit consister à mettre la ville à feu et à sang après, c'est pas notre métier. Et ce soir-là, il avait été très critique avec nous envers les policiers de la BAC. Il estimait que c'était pas son rôle dans les trucs. Et cette politique-là de dire, en gros, on marche comme ça. Les policiers aujourd'hui qui dirigent la France sont des policiers tous issus de ce qu'on appelle les VU, violences urbaines. C'est les policiers qui ont été formés, tout le commandement de la police a été formé à partir des années 2000 dans ce qu'on a appelé la répression des violences urbaines. C'est en gros la répression de la violence dans les quartiers populaires.
D'accord, dans les banlieues, comme on dit.
Avec toute la mentalité de ce qu'on dit des BAC, de la logique de l'interpellation. Sarkozy a fait basculer ça quand il a dit de manière célèbre, c'était à Toulouse en plus, on le répète tout le temps, que le rôle des policiers n'était pas de jouer au foot avec...
c'était pas des assassins sociaux.
Et que leur rôle c'était de faire de l'interpellation. Aujourd'hui, le credo fondamental de la police, c'est mobilité, interpellation... et je ne me souviens plus le troisième, mais on dit... Et
ça doit être déferrement ou quelque chose comme ça.
Oui, le tout. Et c'est la police. C'est-à-dire que les brigades anti-criminalité sont venues l'alpha et l'oméga du principe même, aujourd'hui, de la police des manifestations en France. C'est très clairement raconté par Fabien Jobard et Olivier Figuel. Et je vous engage vraiment à lire ce livre parce que, d'abord, il permet de prendre du recul, de mesurer ce que c'est que le maintien d'hommes depuis le 19e siècle. D'accord, on a tout. Et d'arriver jusqu'à nos jours. Et... de mettre en exergue cette problématique qui fait que on n'est plus, pour les plus anciens, dans ce qui était un peu notre cadre de réflexion et de compréhension de ce que c'était que la police des manifestations. On n'est plus dans le même monde, c'est très clair. Et ça, on comprend mieux à ce moment-là pourquoi on assiste aux scènes qu'on voit à Toulouse encore récemment, de policiers qui font intrusion dans la manifestation, dont l'objectif est d'aller choper 3 ou 4 gars ou filles avec des capuchons noirs sur la tête, etc., au risque de faire partir en vrille toute une manifestation.
100 000 personnes, oui, voilà, parce qu'il y a un cortège de 100 000 personnes qui piétine, qui va voir en panique totale des gens courir.
Qui ne pourra de fait pas manifester.
Et qui ne pourra de facto pas manifester, évidemment. Et qui vont provoquer des phénomènes d'agrégat en plus, etc. Et qui vont contribuer à mettre la ville de Toulouse à feu et à sang derrière, permettant bien évidemment derrière ça, à la Dépêche du Midi, de faire 5-1 d'affilée sur Toulouse à feu et à sang, les violences policières, etc. Le but recherché un peu quelque part, c'est-à-dire... c'est la faute des manifestants s'il y a de la violence, quoi. Hein, je veux dire, c'est quelque part un peu indirectement, un truc raisonnement un peu subliminal. C'est un peu quand même les syndicats qui sont responsables de ça. Ils ont qu'à pas être dans la rue. Hein, il y a tout. Et c'est cette petite musique qui est un peu implicite.
Oui, pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que la voix politique dit de manière répétée, mais plus par réflexe, que manifester est un droit constitutionnel.
On a tenu dans l'extrait du président tout à l'heure, en gros, dans lequel c'est qui était. Nous sommes là pour protéger ce droit qui est le droit fondamental. Et effectivement, dans les faits, on voit bien que, de manière consciente ou inconsciente, parce que là aussi, il faut, c'est tout un travail à la fois d'observation et de décryptage de ce qui se passe, on se retrouve dans des effets qui sont des effets contraires. Voilà.
Oui, il y a l'utilisation, l'arrivée des armes de visée aussi. Oui. Ça aussi, ça a complètement modifié.
Énorme changement. Alors... c'est arrivé des armes non létales et très dites non létales est très bien décrit par Sébastien Rocher dans son livre Gazer, mutiler, soumettre, qui est un petit opuscule que je vous conseille de lire là aussi, qui est une excellente analyse de ce qui se passe et ce que nous on a vu à Toulouse à partir de ça. Le lanceur de balles de défense, par exemple, je vais parler de deux armes fortement utilisées par la police dans les manifestations. Tout le monde connaît un peu les gaz lacrymogènes, c'est n'importe quelle personne qui manifeste, malheureusement
c'est le quotidien de la manif aujourd'hui.
Donc on va parler donc de deux armes piquées depuis la nuit des temps. Au début, on était un peu déformé à l'Observatoire des pratiques policières. Je parle de certains militants comme moi, un peu historiques. Le jet de grenades lacrymogènes en fin de manifestation, ça faisait presque partie du folklore des manifestations.
C'est du rituel.
C'était bon, quelques gaz, etc. On avait sous-estimé à l'époque combien les gilets jaunes et les gens, eux, n'étaient pas habitués à ça et trouvaient ça extraordinairement agressif. Ce que c'est d'ailleurs.
Bien sûr.
Ce que c'est, fondamentalement. Mais je referme la parenthèse sur les gaz lacrymogènes, on va parler des LBD et des grenades manuelles de désencerclement. Donc la police française, d'abord, est la police la plus armée d'Europe. Il y a un tableau remarquable qui a été fait par l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAD dont je parlais tout à l'heure, qui nous avait frappé dans le rapport qu'il nous avait présenté et qui est largement repris, y compris dernièrement par Le Monde, qui montre que la police française est surarmée par rapport au reste de l'Europe. Donc je ne fais pas le détail. Et revenons donc au LBD et tout. Lanceur de balles de défense. Ça porte un nom, on se dit, tiens, c'est fait pour la défense. D'accord ? Ça projette à 330 km/h une boule. Est-ce qu'on appelait les lanceurs de balles de défense, les balles en caoutchouc du temps des événements, comme on dit, de la guerre sociale en Irlande du Nord ?
D'accord ? Oui, ou en Israël aussi.
Qui a fait, à l'époque, ils ont fait des centaines de blessés et des dizaines de morts en Irlande du Nord, avec les flashballs, d'accord ? Appelés LBD. Les LBD, donc, est une arme qui, théoriquement, est faite que des policiers se sentent menacés, ils sont en situation d'infériorité, ils ont un problème, ils doivent se dégager.
C'est le dernier recours.
Le dernier recours.
Pour leur propre sécurité.
Ouais. Voilà. On regarde, et on a des photos qu'on a publiées à l'OPT, où vous voyez les policiers, ils sont en position de tir. Les manifestants sont à 30 ou 40 mètres, 50 mètres, ils ne sont absolument pas menaçants. Et le policier là, avec sa visée, il regarde.
Ce qui n'est pas anodin de viser, d'ailleurs.
Bien évidemment, puisqu'il y a des visées derrière. Tout. Et là, on est, c'est plus une arme de défense, là. C'est une arme d'attaque. D'accord ?
C'est le tir au pigeon.
Je le dis, et on l'a vu dans des manifestations toulousaines. Il y a même un policier qui vient, chose rare d'être condamné, on en a fait un poste pour l'OPP, pour avoir utilisé de manière totalement abusive un lanceur de balles de défense au Pont-Guy-Méry pendant une manifestation des Gilets jaunes. Et quand j'ai vu cette condamnation, je suis allé rechercher dans les archives de l'OPP le compte-rendu de cette manifestation-là. Et effectivement, on l'avait décrit, mais ce jour-là, ça avait été dantesque. Et j'avais dit, bon Dieu, ils sont au stand de tir. C'est écrit tel quel dans notre rapport. Enfin, on l'avait constaté de manière évidente. Lanceur de balles de défense, c'est un nom qui est un lanceur de balles d'attaque. Soyons clairs là-dessus. Deuxième chose, les grenades manuelles de désencerclement. Pareil. Manuel de désencerclement, on s'est dit, ça désencercle. Pareil, les policiers sont menacés par une horde.
C'est la légitime défense, quoi.
Une horde de manifestants qui les encerclent.
Vikings.
Des barbares avec leur hache, là. J'arrête de sourire parce que c'est pas tellement marrant, enfin, au bout du compte, ce qu'on constate. Et là, je vais vous prendre un exemple qui est tout chaud. Manif du 23 mars à Toulouse. Ça chauffe à Jeanne d'Arc. Nous sommes un groupe d'observateurs, nous avançons. Les gendarmes mobiles sont en ligne, casqués, boucliers, canons à eau au milieu. C'est une ligne de Robocop là. En face de ça, il y a des manifestants qui sont une queue de manif. Et franchement, vous regardez, alors je filme les deux, je filme les gendarmes, puis hop, zoom avec mon smartphone, on filme avec des smartphones, hein. On n'a pas d'appareil photo sophistiqué, on est vraiment dans le basique, tout citoyen peut filmer la police, et nous on filme la police comme le ferait n'importe quel citoyen avec son smartphone, tout simplement, on ne cherche pas de matériel sophistiqué. Je zoome, et je reviens sur le gendarme, et effectivement, il y a un projectile, mais gros comme tout petit, qui arrive et qui tombe au pied des gendarmes. Immédiatement, alors je ne l'ai pas vu sur le moment, c'est en regardant la vidéo le soir, parce qu'on voit beaucoup de choses après coup. Immédiatement, un gendarme s'avance et jette au sol quelque chose qui, bien évidemment, explose, projette des plots dans tous les sens, c'est une grenade de désencerclement. Et là, quand je regarde cette vidéo, je me dis, mais c'est une utilisation qui est réglementaire de la grenade de désencerclement parce qu'on ne l'a pas envoyée en cloche, elle roule au sol. J'ai rien à dire là-dessus. Elle doit être...
Est-elle légitime pour autant ?
Mais pourtant, les gendarmes étaient-ils, tels qu'on les voit là, menacés d'une quelconque manière, de manière notable par... Absolument pas. Cette grenade a été jetée de manière offensive. Je suis jusqu'à aller, vicieux comme je suis, jusqu'à prendre Géoportail et à mesurer la distance qu'il y avait entre le rang de policier, tel qu'il apparaît sur la vidéo, et les premiers manifestants. Les premiers manifestants étaient à 16 mètres. Des policiers, d'accord, et la masse des manifestants, 4 personnes, et la masse des manifestants est à 25 mètres parce que les manifestants contournent. Ils disent les flics là, on contourne, etc. Donc là, qu'est-ce qui justifie ce jour-là, à Toulouse, l'utilisation d'une grenade manuelle de désencerclement par un gendarme ? Rien, absolument rien. Au risque, et heureusement pour les manifestants concernés, que la grenade en roulant, elle tape sur un poteau, elle revient en arrière, elle tourne sur elle-même, et elle explose en fin de compte, loin. Si elle n'avait pas tapé ce poteau, elle explosait en plein milieu des manifestants.
Mais vous posez la question au niveau de la chaîne de commandement, en fait. Qui donne l'ordre ? Même dans ce cas précis,
d'ailleurs. Vraie question. Alors, dans le second rapport de l'OPP, alors je vous engage au passage à télécharger les rapports de l'Observatoire toulousain des pratiques policières, on en a fait deux.
Et aussi le guide du manifestant et de la manifestante, on l'a abordé, permet, ça répond à énormément de questions.
Mais aujourd'hui, si on veut trouver les moyens d'avoir l'information, là, je pense qu'on est tous plus ou moins sur les réseaux sociaux.
Si vous allez sur le site LDH, vous avez tout ce qu'il vous faut.
Les rapports, vous pouvez les trouver, donc il n'y a pas de problème. Et dans le second rapport, on a analysé cette problématique, justement, de qui décide. Parce qu'on a souvent interrogé, l'OPP, on a fait deux rapports, en bonne et due forme, un en avril 2019, un en avril 2021, d'accord. Et puis, on fait régulièrement des communiqués de presse, des trucs comme ça, tout. Mais on n'est pas obsédé par la communication. On veut que notre voix veuille dire quelque chose. Si on faisait un communiqué après chaque manif, ça la ferait tout le monde, et tout. Donc, on communique quand on estime que il y a des choses à raconter. Et ceci dit, donc, sur le... J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire...
Le commandement.
Ah oui, sur le commandement. Dans le deuxième rapport, en travaillant dessous, on s'est interrogé un petit peu là-dessus. Et on a lu avec attention ce fameux schéma national du maintien de l'ordre. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une évolution doctrinaire extrêmement importante. Avant, assez logiquement, on pensait que tout était vertical. En gros, il y a une salle de commandement, des policiers qui sont le préfet ou son représentant, le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant dans une salle où ils sont regroupés et ils sont en liaison avec leurs unités sur le terrain. À Toulouse ou dans les grandes villes, ils ont en plus tous les réseaux de caméras, bon, etc. Ils ont tous les moyens. Et à ce moment-là, ils disent, on pense qu'ils disent à tel officier de police judiciaire, vas-y mon gars...
limite jeu vidéo.
Hein, bah, voilà. Ils sont, on pense que c'est une forme verticale comme ça. Ça l'était jusqu'à il y a peu de temps. Et ce qui a valu d'ailleurs souvent qu'on interroge le préfet dans nos courriers ou dans nos communiqués en disant qui a donné l'ordre tel jour à telle heure de tirer. Est-ce que c'est vous? Enfin, etc. On ciblait particulièrement la BAC, dont les interventions sont absolument imprévisibles et n'obéissent visiblement à aucun ordre hiérarchique. C'est les gars sur le terrain qui décident. Ça, c'est la caractéristique de la BAC. Mais cette caractéristique touche aujourd'hui des formes de police plus conventionnelles. Et c'est très bien expliqué dans le schéma du maintien de l'ordre. Le principe maintenant du maintien de l'ordre, c'est que c'est l'officier de police judiciaire de terrain qui décide lui-même s'il doit utiliser la force. C'est lui, c'est marqué noir sur blanc. Et ce que nous constatons, écrit noir sur blanc, nous l'avons déjà constaté dans la rue à Toulouse, nous avons fait une vidéo spéciale sur ce problème-là dans la page Facebook de l'OPP, dans laquelle on analyse le comportement d'un groupe de policiers des CDI, compagnie du département d'intervention, dans la rue Saint-Rome. Les manifestants s'avancent, c'est les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes en plein été, ça braille, c'est tout. Mais c'est pas un groupe d'individus casqués, armés, des sortes de black blocs, là, comme on dit, tout ça. C'est les gilets jaunes dans toute leur splendeur qui descendent la rue Saint-Rome. Et bing, comme d'habitude, à ces endroits-là, il y a un groupe de 20 CDI qui sont là. En général, tous ces derniers temps-là, on voyait souvent un policier de tout se mettre devant avec son mégaphone et dire « Dispersez-vous, c'est un magnagnagna, bon, enfin, etc. » Sommation. Là, plus pourtant, les gilets jaunes n'obéissent pas au doigt et à l'œil. Ils restaient là, ça continuait à brailler. Puis au bout d'un moment, après 2-3 sommations, étalées sur 3-4-5 minutes, les gilets jaunes prenaient la rue, bahourent leur mien sur la droite pour refiler dans un endroit de Toulouse, typique du comportement des gilets jaunes. Et ce jour-là, je filme, et là, il y a une officière de police judiciaire, une capitaine, une commissaire de police, qui est derrière ces hommes et qui dit « Manifestez, dispersez-vous !» et qui donne, qui tape sur le bras de son collègue, et hop, boum, lacrymogène, tout, d'un seul coup, et tout. Alors que... plusieurs fois avant, au même endroit, au même lieu, on avait vu l'officier de police judiciaire, lui, prendre son temps, laisser les gens se disperser, considérant que c'est les gilets jaunes, il menaçait en rien, en plus, qui que ce soit, bon, etc. Et là, on a vu apparaître en bas de nous cette traduction du schéma national du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que, suivant l'officier de police judiciaire, qui va être en charge du dispositif, on va avoir une utilisation plus ou moins notable, plus ou moins réelle, de la violence de la part des policiers.
Donc et c'est pas lisible en fait.
Non, alors voilà, ah ouais. Alors ça tue totalement à la lisibilité. Et en plus, c'est un effet pervers qu'on décrit bien dans notre rapport, c'est que ça responsabilise totalement l'OPJ de terrain. Qui en gros, le message qui passe, c'est La préfecture dire débrouillez-vous pour que ça se passe et empêcher les manifestants d'arriver à Place du Capital, par exemple, et à chacun de faire comme il veut sur le terrain. Et donc on va avoir une attitude et une utilisation de la force qui ne va pas dépendre d'une forme de cohérence, de respect d'une hiérarchie, mais qui va être liée à l'attitude d'un policier qui, ce jour-là, était énervé, il s'engueulait avec sa femme le matin, il est vénère, et il va dire, ils me font chier cela, j'ai dégage, je suis prêt à argotique en parlant comme ça, mais il y a un peu de ça. Hein,
est-ce que ça évidemment déresponsabilise le haut commandement qui permettra.
C'est vieux comme tout le travail qu'on a pu faire d'observation ou de décryptage. En gros, ça produit de l'impunité quasiment à tous les étages. Et là, la subtilité, c'est d'aller renvoyer au bas de l'échelle un niveau de responsabilité qui, de toute manière, bon, faut se dire que, en règle générale, les enquêtes sont confiées à l'IGPN ou à l'IGGN, c'est-à-dire la police qui enquête sur la police. Et en gros, on peut continuer à faire comme on faisait d'habitude. Pour le moment, enfin, je rappelle la suite de drames qui se sont succédés, parce que c'est quand même, à des moments donnés, ça prête à sourire, mais c'est déjà mutilé, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est entre la vie et la mort, c'est quelqu'un qui est déjà mort il y a quelques années, voilà. Et on n'a pas de responsable, hein, on n'a pas de coupable, tout ça passe relativement à l'as. La dernière en date, elle date d'hier, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, après enquête, vient en gros de déclarer que les gendarmes qui ont utilisé les LBD qu'on évoquait tout à l'heure à partir des squads en faisant du Ben-Hur étaient dans des états qui étaient des utilisations justifiées parce qu'ils étaient en état de légitime défense. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient confrontés. Alors on va retrouver les Vikings, hein, voilà. Et on a là tout un ensemble extrêmement cohérent qui fait qu'il y a violence et il y a impunité pour les gens qui la pratiquent. Voilà. Ça date d'hier, hein, ça. Voilà,
ouais. Et donc, vous le lirez dans le rapport, dans le second rapport de l'Observatoire des pratiques policières, ça obéit à un cursus, enfin, un raisonnement qui est profondément politique. On cite un livre qui est d'un historien qui s'appelle Johan Chapoutot, qui a écrit un bouquin dont je conseille la lecture, qui s'appelle le management, virgule, du nazisme à nos jours. Alors on peut dire que c'est ce raccourci, et cet homme explique dans son bouquin comment le management moderne, et qu'on voit à l'œuvre partout, est issu fondamentalement en Europe des pratiques d'un ancien haut cadre militaire des SS allemands, hein, d'accord, qui a survécu aux purges et qui a créé une école de formation au management basé sur les principes qu'il avait mis en œuvre pendant le Troisième Reich, qui a formé la quasi-totalité des cadres et des dirigeants des entreprises allemandes et en partie européennes dans l'après-guerre. Et ce truc s'est entièrement basé sur cette notion-là qui avait été développée pour l'armée allemande, c'est-à-dire le principe de dire, je vais être concret, il y a une colline à prendre. Hein, donc les généraux disent la colline, on parlait comme ça au Vietnam, on parlait de la colline 212, etc. Donc il y a tel objectif à prendre, d'accord ? Il faut le faire, tous les moyens sont bons. À l'officier sur le terrain de décider lui-même de ce qu'il doit, les moyens qu'il doit mettre en œuvre, seul contre le résultat. Cette manière de penser militaire a été intégrée au management moderne. Le raccourci est saisissant, mais absolument vrai, c'est inquiétant. Et tous ceux qui ont vécu autour de Orange, des privatisations, du lean management dans les entreprises savent ce que ça veut dire. Le rôle extrêmement important qu'on a dévolu aux cadres intermédiaires qui sont là pour mettre en œuvre des décisions centrales et des objectifs fixés par soit des propriétaires d'entreprises, soit en l'occurrence des dirigeants de maintien de l'ordre. C'est la même logique qui est à l'œuvre. C'est un raccourci saisissant mais profondément inquiétant et qui fait effectivement qu'on constate aujourd'hui sur le terrain que c'est l'OPJ qui sur place, lui, va décider dans son coin d'utiliser ou pas les armes, la violence, enfin, etc.
Et il y a un corps dont la mission, j'ai l'impression, est d'obéir.
Ah oui, libre d'obéir, le bouquin. Le management du nazisme en deux jours, j'avais oublié le titre du bouquin, Libre d'obéir. Et je vois que vous avez un réflexe.
Parce qu'on parlait de l'égalité, de légitimité tout à l'heure, oui. En fait, sur la mission qu'on s'octroie en étant d'un côté ou de l'autre. Mais malgré tout, le fait de persister dans l'obéissance, c'est aussi ce glissement-là qui peut être dangereux.
Oui, bien sûr. Je voudrais juste faire une petite incise qui peut être... Alors, il est dangereux pour les gens qui en sont victimes directement, c'est-à-dire les manifestants, mais il est y compris dangereux pour les policiers. Ce qu'on est en train de faire n'est pas de l'anti-policier pavlovien. Je veux dire, quand on voit des policiers, on n'est pas saisi de frissons, ni de plaques d'eczéma, ni de haine aux lèvres. Ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer. Qu'est-ce qui fait système là-dedans, y compris au détriment des policiers qui sont policiers sur le terrain. Je veux dire, je suis trop âgé, puis c'était pas ma carrière, mais je serai policier aujourd'hui sur le terrain. Je me poserai des questions sur les syndicats qui me représentent. Alors, sur le ministre qui me dirige, et y compris sur les syndicats qui me représentent, c'est-à-dire sensiblement la même chose. Là, on voit une reprise en main de la communication sur la police par le ministre. Il y a de ça quelques mois, il suffisait d'écouter les policiers. Vous aviez les mêmes. Le président vient, le ministre vient ouvrir le congrès du syndicat Alliance, animé au passage d'ailleurs... par un journaliste de BFM Télé, comme quoi le journalisme de préfecture a encore de beaux jours devant lui. Voilà. Mais les syndicats policiers et le ministre qui couvrent tout, je veux dire, on a aujourd'hui, et ça devient, pour nous, on tire la sonnette d'alarme, c'est politiquement extrêmement dangereux. Quand on mutile, quand on attaque les libertés, quand on empêche les gens d'exercer leurs droits fondamentaux, et que derrière, la justice se tait. Un certain nombre de magistrats ont beaucoup de mal à imaginer, malgré quand même l'évidence des faits, que la police se comporte de manière absolument incorrecte vis-à-vis... Et que la parole d'un policier est forcément vraie. Quand on voit la quantité de mensonges qui se passent, on se demande à des moments donnés où vivent les magistrats, qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils entendent. Voilà. Quand la justice... ne fait pas son travail, ce qui est de rendre la justice en toute indépendance, tout ça nous amène quand même à des degrés de violence qui font que ce soit les gens sur le terrain, que ce soit les policiers, qui jusqu'à présent sont suffisamment bien protégés pour, là aussi quand même, pour ne pas être dans un danger qui est l'équivalent de celui des manifestants. J'ai du mal à entendre le discours qui est de dire il y a eu beaucoup de policiers blessés. Je veux dire, les gens qui racontent ce genre de choses-là ne sont jamais allés au contact direct des réalités de ce qui peut être. Il n'y a pas de policiers aujourd'hui qui soient entre la vie et la mort. C'est parfaitement heureux d'ailleurs, et ce serait absolument ignoble que de souhaiter la mort de policiers, mais force est de constater que pour le moment, c'est plutôt du côté des manifestants que les gens dérouillent. Voilà. Mais en tout état de cause, les policiers eux-mêmes sont mis en danger à la fois par les gens qui les dirigent et par les doctrines qui les encadrent. Et c'est ce qu'on souhaite alerter aussi.
Alors, illustration de ce que dit Jean-François. Sainte-Soline. Quand on regarde l'opération militaire de Sainte-Soline, je répète, c'était pas du maintien de l'ordre, c'était une opération militaire.
Avec des gendarmes.
Et dirigée par des généraux. Hein, je veux dire, faut l'avoir en tête, ça. Hein. Ces gendarmes mobiles qui sont si polis pendant les manifestations toulousaines, quand ils s'adressent aux manifestants, ce qui est vrai. D'ailleurs, à l'effense des baqueux qu'on insulte à la bouche, etc. Les gendarmes... Mais les gendarmes, on le sait depuis toujours. Quand on leur dit de tirer, ils tirent. Sans état d'âme. Hein, d'accord. Ça ne veut pas dire que les autres ne le feraient pas, mais globalement, tout. À Sainte-Soline, quand on regarde un peu le déroulé des opérations, on se rend compte que pour les généraux, les manifestants, comme les gendarmes, c'était de la chair à canon. En gros, ils ont organisé le dispositif de défense, entre guillemets, de cette bassine. On aurait pu penser, quand on était dans la manifestation, au début, habitué des manifs, moi, etc., je me disais, tiens, on ne voit pas encore les gendarmes. On se baladait dans la campagne, il y avait des touches, je me suis dit, on va tomber sur des barrages, ils vont nous empêcher de passer et tout. Que nenni ! Les manifestants ont dû progresser jusqu'au site. Et là, au site, on a vu quoi ? Une bassine totalement entourée de camions de gendarmerie, de camions à eau, de blindés, de camions militaires et tout. Et derrière, entre les camions, des centaines et des centaines de gendarmes mobiles totalement équipés avec des lance-grenades et des flashballs et des lanceurs du matériel. Et En gros, ces gendarmes étaient acculés contre la bassine. De toute façon, ils n'avaient à aucun moment la possibilité eux-mêmes de se dégager s'ils avaient des problèmes. Ils étaient condamnés ou à tuer les autres ou être tués eux-mêmes. Alors, vous comprenez, j'emploie le terme de tuer et tout contre bien ce que je veux dire. Ça a été pensé sciemment pour moi. Sciemment par le commandement militaire qui a organisé cette manifestation pour ne pas laisser d'échappatoire possible. Parce que ce qui se passe, c'est que en petite musique derrière, il y avait ce qui s'était passé au mois d'octobre où les manifestants très anguilles, avaient fait trois cortèges et s'étaient faufilés entre les rangs des policiers qui bloquaient telle route mais pas telle autre, enfin etc. Et avaient réussi à atteindre la bassine. Et le « ils ne passeront pas » dit par la voix des gendarmes dans son compte-rendu de la manifestation de Sainte-Soline, dit tout ce que ça voulait dire. On a mis donc... Et moi, je pense à ces gendarmes, en fin de compte, quelque part, qui sont retrouvés dans une position... De toute façon, parce qu'en face de ça, il y avait indéniablement des manifestants défilés. Le principe, c'est de dire, on va sur la bassine, quoi. Et tout. Et on les a mis dans une position telle, de toute façon, qu'ils ne pouvaient que soit s'écarter, mais c'est pas possible, ils ne pouvaient pas s'écarter. D'accord. Soit, de tirer comme ils l'ont fait.
Il y a eu combien de grenades lancées?
Alors, j'ai étudié les chiffres, bien évidemment. Je suis très chiffre, moi. Hein. J'aime bien quantifier les choses. Hein.
C'est vrai.
5015 grenades lacrymogènes tirées, 40 grenades assourdissantes et 81 tirs de LBD. Donc on se dit, on regarde ça, puis on se dit, 40 grenades assourdissantes, je rêve. Moi, j'avais une vidéo à côté de moi, 39 secondes, 22 explosions de grenades. Donc je me dis, mais... Et c'est 30 secondes, 39 secondes. Et je sais que ça a duré une heure, le grenadage ininterrompu. Donc bien évidemment, l'arnaque, et il y en a une là-dessus, dans la communication donc des généraux et donc de Darmanin derrière, c'est de dire, de laisser penser qu'il n'y a eu que 40 grenades explosives de lancer. Parce que dans la nomenclature qu'ils ont employée, dans les 5015 grenades lacrymogènes, il y a des grenades lacrymogènes classiques qu'on connaît les uns et les autres, vous savez, ils tirent, puis ça, en l'air ça se sépare et ça fait des retombées en panache blanc, hein, ce qu'on connaît tous dans les manifestations, on le voit régulièrement. Mais il y avait surtout des grenades lacrymogènes et explosives. Les grenades qu'on appelle les grenades GM2L, qui ont remplacé les grenades offensives, qui ont tué aussi bien à Sivins qu'il y a déjà plus de 40 ans à Malville. D'accord ? Et là, ils les ont utilisées par centaines. Et ce qu'on va demander dans notre rapport, c'est le décompte exact de la part de la gendarmerie de le savoir du nombre de grenades lacrymogènes uniquement ou des grenades lacrymogènes et assourdissantes. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y en a eu des centaines de tirées. Et elles n'ont pas été tirées comme ça, elles ont été tirées au lanceur Cougar. Ce sont des grenades tellement dangereuses que depuis juillet 2021, les gendarmes et les policiers ont interdiction de les lancer à la main parce qu'elles peuvent leur péter à la main. Ils ont interdiction de... Donc elles ne peuvent être lancées qu'au lanceur Cougar. Hein, et ça, ils ont lancé ces grenades-là, on a les photos, les documents, avec des amorces, comme on dit, jusqu'à 200 mètres de distance. Et on le voit quand on regarde nos vidéos. Ils tirent avec ces grenades explosives qui ont fait beaucoup de plaies, ce qu'on appelle délabrantes. Hein, où ça arrache des morceaux de cuisse, ça casse des pieds. C'est une explosion d'un matériau explosif de 60 grammes. Donc on nous a dit que c'était moins dangereux que le TNT des anciennes grenades offensives qui avaient tué à Sivins. C'est pas vrai. Toutes les analyses montrent que c'est autant, voire plus explosif. D'accord ? Et quand on était sur place, quand on voyait les grenades tomber, boum, le bruit extrêmement fort. Et puis vous passez derrière, vous avez un trou de 20 cm et de 5 cm de profondeur dans le sol. D'accord, vous voyez ce que la déflagration que ça fait. Ils les ont tirés par centaines au lanceur longue portée dans la masse des manifestants. Donc ça a été une boucherie. Ça a été une boucherie, j'emploie le terme en toute connaissance de cause, puisque nous, on a la liste des blessés aujourd'hui. Et dans cette liste des blessés, il n'y a pas tous les blessés qui n'ont pas été identifiés, hein, qui eux-mêmes ont refusé, pour des tas de raisons qu'on connaît.
Oui, parce que la blessure n'empêche pas l'arrestation.
L'arrestation,
la garde à vue, la fouille,
il y a eu donc des dizaines de blessés. Alors, on connaît les deux blessés extrêmement graves qu'il y a eu, bien évidemment, tout, mais il y a eu des dizaines et des dizaines de blessés qu'on appelle graves aujourd'hui. Et en face, face de ça, je me suis intéressé à ça, on s'y intéresse bien évidemment, sur les fameux 47 policiers et gendarmes blessés au jour-là. Parce que dans le rapport de la gendarmerie, il y a 47 blessés chez les gendarmes, il y en a, d'après la police, 17 du côté des manifestants. Enfin, quand vous dites ça, vous rêvez, quoi. Hein. C'est pas possible, ils n'étaient pas le même jour au même endroit que nous, quoi. Et quand on regarde les blessures des gendarmes, d'abord celui qui était soi-disant en urgence vitale, trois jours après, il y avait un de ses collègues, lieutenant de communication de la police, qui disait « Oh, il va mieux, il a pris une grenade, un mortier d'artifice dans le ventre, il est mal quand même, hein, mais il est en repos chez ses parents, quoi. » Enfin, le fameux « Tout était trois jours après en repos chez ses parents, quoi. Hein. » Donc, première chose, sur les soi-disant blessés graves du côté de la police. Et après, la majorité des blessés, c'est pour désordre respiratoire et problèmes auditifs. Pour 30, plus de 30%, pour plus de 30 d'entre eux. C'est-à-dire, en gros, une intoxication au gaz lacrymogène par les gaz qui suffit à en faire des blessés. Si je prenais ce critère d'analyse pour Sainte-Soline, c'est pas des centaines, c'est pas des dizaines de blessés qu'il y a eu à Sainte-Soline, c'est des centaines, voire des milliers de blessés. Parce que le nombre de personnes intoxiquées au gaz, par exemple, l'ensemble des observateurs qui étaient présents, on a tous pris des gaz par la gueule. Moi, par exemple, j'ai été immobilisé pendant 10 minutes. Impossible de faire autre chose que d'essayer de récupérer.
Que d'essayer de respirer.
Que d'essayer de respirer et de prendre ça. Donc je fais partie des blessés. Si je m'en tiens qu'à la gendarmerie. Or, je ne suis pas compté dans les blessés de Sainte-Soline. Donc si vous voulez, il y a de ce côté-là. Tout. Donc je reviens à ce que je disais à l'origine. C'est vrai que j'en parle encore avec émotion parce que honnêtement, ça a été très dur. Cette impression, et de passer son temps à entendre les gens gueuler « médic », de voir qu'ils y allaient, et de voir en permanence les grenades qui explosent autour de soi, et on voit la terre qui sort en même temps, c'est vraiment tout, et on sait que les gens, ils sont... Mais ces gendarmes, on les a mis en position de devoir agir comme ça, de toute façon. Donc, les gendarmes, et c'est très marrant, parce que quand on voit des manifestants qui discutent avec les gendarmes ou les policiers dans les manifestations, souvent, les gradés viennent les chercher pour les empêcher de discuter avec les manifestants. Des fois que ça générerait dans la tête de ces personnes-là le doute qui fait est-ce que c'est justifié ce que je fais. Donc il y a vraiment, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout anti-flic primaire. On a des moments de colère, hein, honnêtement, parce qu'on voit certains policiers prennent du plaisir à ce qu'ils font. Par exemple, les quads à Sainte-Soline, je l'écris et je suis prêt à les témoigner devant un bureau. J'ai vu des gens qui étaient entre des ados qui s'amusent sur un quad dans les dunes de l'Atlantique. Hein, j'en ai vu à l'été, ça m'énerve à chaque fois les petits cons là, qui sautent de dune en dune, hein, entre ce comportement-là, tout, avec y compris les cris de joie et les dérapages. Ils avaient l'air de s'amuser comme des petits malades, et pendant ce temps-là, ils tiraient des grenades à 200 mètres de distance. D'accord ? Oui, donc vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, je fais de la dissonance cognitive là ou quoi ? Je suis barré ou
on ne peut pas assurer une visée. Donc, je veux dire, l'arrière d'un quad en plein mouvement, ouais. C'est évident.
Alors nous, en ce qui me concerne, j'aime bien toujours ramener, je n'ai pas vu les gendarmes des quads tirer en roulant. Moi, je ne l'ai pas vu. Okay. Ce que j'ai vu, que j'ai documenté, j'ai filmé, j'ai trois charges de quad d'affilée, tout au début des affrontements. Ils avancent avec leur quad, alors ils font les kékés, là, etc. Puis à un moment, ils se posent, le passager sort et boum, 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 ils y vont. D'accord ? Je ne les ai pas vus tirer en roulant. Par contre, ça a été documenté par d'autres sources.
Oui, il y a des images. Ouais.
Alors j'en profite un petit mot. L'OPP ne fait reposer ses rapports que sur ce que les opérateurs ont eux-mêmes constaté. On ne va pas chercher les images, quelquefois juste, hein, c'est pas le sujet, hein, dans d'autres médias que les autres, sauf si vraiment, je crois que dans le premier rapport qu'on a fait, il y avait une seule image qui n'était pas issue des banques de données de l'OPP. C'est un truc parce que notre crédibilité en est là. Nous ne sommes pas là pour raconter ce que d'autres ont raconté, dont on sait que la chaîne de crédibilité peut perdre en sérieux avec le temps. Donc toujours cette volonté. Donc je ne peux pas affirmer là que j'ai vu des policiers tirer avec les quads, mais j'ai comme tout le monde vu la vidéo qui est vraie, à mon avis, hein, du policier qui est sur le quad et qui tire au LBD en roulant. Ça, je l'ai vu. Donc, la vidéo.
I need money, 'cause I had none. I fall.
à ça, il y a quand même donc Darmanin attaque la Ligue des droits de l'homme.
Oui, tout à fait. Oui, alors là on assiste à une séquence un petit peu surréaliste. Alors tout à l'heure, on a évoqué le sénateur maire de Caussade, Bonhomme, et on a vu une espèce de mano à mano entre un sénateur qui ouvre la porte à un ministre pour qu'il vienne, effectivement. Alors, mettre en cause la Ligue des droits de l'homme de façon un peu assez sordide, assez... mais bon, c'est peut-être le personnage, ça. Hein. En gros, on va taper au portefeuille, la Ligue des droits de l'homme serait... une association grassement financée par l'État qui regarderait à partir de maintenant à l'argent qu'elle lui donne. Alors, allons-y clairement déjà, hein, 2/3 dons et adhésions, 1/3 ce sont des subventions de l'Europe, de l'État et des collectivités territoriales. En gros, hein, c'est quand même pas grand-chose ce que l'État donne à la Ligue des droits de l'homme, et c'est chaque fois... parce que c'est de l'argent public et que c'est normal qu'on rende des comptes. Et c'est aussi normal qu'on ait accès à l'argent public en tant qu'association qui remplit une mission de service public. Je veux dire, c'est pas ça qui nous fait fonctionner, puisqu'on est une association essentiellement à base dont l'action est développée par des bénévoles. Hein. La Ligue des droits de l'homme, c'est 10 000 adhérents et c'est une grosse dizaine de salariés. Vous voyez, on roule pas sur l'or. Moi, j'en ai été secrétaire général national. Rassurez-vous, j'ai pas eu de voiture de fonction comme mon successeur aurait à vendre. Voilà. Alors, c'est un peu grotesque au passage parce que, alors, il y a la partie marrante de l'affaire. C'est l'affaire de l'arroseur arrosé. Depuis que M. Darmanin s'est permis ce genre de saillie contre la Ligue des droits de l'homme, on vient de prendre 3000 adhésions et en gros, on avait un léger déficit structurel parce que justement, comme on n'est pas très riche, on a des fois des problèmes de fin de mois. Ça va, merci. Ils viennent d'être comblés par les dons de soutien et de solidarité des citoyennes et des citoyens qui sont allés pour soutenir la LDH. Donc, c'est le côté sympa de l'affaire. À la fois, ça nous fait très, très plaisir que nous puissions accroître notre capacité militante. N'hésitez pas à venir adhérer à la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes les bienvenus, il y en a bien besoin. Voilà, ça c'est le côté un peu souriant de l'affaire.
C'est l'effet stressant, ça s'appelle.
Ça s'appelle l'effet stressant, c'est ça, tout à fait. Hein, c'est sympa, et ça nous fait... Et ce qui dénote quand même aussi le fait qu'il y a une espèce de... Dans le pays, on va le dire comme ça, sans faire trop de lyrisme, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui de la partie un peu plus sombre de l'affaire, qui est que, en gros, ces gens-là n'hésitent pas devant grand-chose. Hein. Darmanin avait déjà essayé de faire le coup, hein, c'est le maire de Tourcoing, il avait déjà essayé de sucrer les quelques rares subventions que la ville donnait à la Ligue des droits de l'homme. Il récidive en tant que ministre. Ces gens-là n'hésitent devant rien, d'une part, à essayer de discréditer une association, alors, bon, voilà, qui est depuis 1898 sur le pont, matin, midi et soir, pour défendre les libertés et les droits. Les seuls qui s'étaient permis ce genre de choses-là, je le rappelle régulièrement quand même, c'est le gouvernement de Pétain. Hein, c'est Vichy qui ont été les seuls à avoir le comportement que souhaite avoir, semble-t-il, M. Darmanin. Voilà. Mais donc ils osent effectivement ce genre de choses-là, ce qui en dit long sur le rapport qu'ils ont aux associations. Et de ce point de vue-là, je veux dire, ça c'est un peu incident par rapport à notre sujet, mais le macronisme ne supporte pas le contre-pouvoir. Quand j'ai dit le macronisme, les pouvoirs ne supportent rarement les contre-pouvoirs, mais c'est la loi du genre. Voilà. Là, de moins en moins. Aujourd'hui, il faut vraiment être dans les clous. Clou, ça veut dire qu'il faut, main sur le cœur, affirmer un certain nombre de choses, hein, le contrat d'engagement républicain qui permet de faire un petit peu le ménage au passage, qui permet de remettre en cause le financement d'un certain nombre d'associations au prétexte qu'elles pourraient apparaître comme étant terroristes. Vous savez, le fameux terrorisme d'extrême gauche qu'évoque M. Darmanin.
L'éco-terrorisme.
L'éco-terrorisme dont on parle par ailleurs et tout. Les terroristes qui sont dans manifestation, voilà. Eh bien, on va vous sucrer l'argent public comme si, par ailleurs, cet argent était le leur, y compris. Or, c'est l'argent qui est l'argent de tout le monde. Une espèce de privatisation à la fois idéologique et financière de l'État qui est dangereuse et vis-à-vis de laquelle, visiblement, ça se mobilise encore aujourd'hui. L'humanité vient de faire un numéro spécial dans lequel il y a un appel à un soutien de la Ligue des droits de l'homme. Donc moi, si j'ai un message, je vais me le permettre quand même. Venez adhérer à la Ligue des droits de l'homme, aidez-nous, faites que ce soit une association que nous partagions et les uns et les autres, de façon à défendre nos droits, qui sont quand même sacrément mis en cause ces temps-ci. Voilà.
Et un petit mot, juste pour terminer aussi là sur une note politique. Dans l'interview que vous avez diffusée tout à l'heure, il était question de considérer la police comme une milice. C'est-à-dire quelque chose qui défend un intérêt particulier. Et je me suis souvent interrogé sur ce terme qui, par moments, m'énerve un peu, moi, même si je comprends police, milice, capitale, bon, etc. J'entends bien ce qui est dit. Et je me suis interrogé, l'autre jour, un terme qui m'est venu à l'esprit, et j'ai été vérifié, effectivement, avec, comme vous tous le faire aujourd'hui, le terme de garde prétorienne. Je crois qu'effectivement, on peut qualifier, aujourd'hui, en ces temps de mouvement social extrêmement puissant, lorsque 70 à 80 de la population, en toute légitimité, justement, refuse une réforme qui semble injuste, anormale, etc., quand les gens se lèvent en masse pour refuser ça, et que la police et la gendarmerie sont utilisées de manière massive pour casser le mouvement social, on a l'impression qu'effectivement, les gouvernants qui nous dirigent aujourd'hui ne tiennent plus qu'à un fil, celui de leur garde prétorienne. Et que l'utilisation de cette garde prétorienne qui, chez les Romains, était spécialement bien payée, avait des avantages par rapport au reste des légions romaines, etc. Regardons l'attitude de M. Darmanin et de ses précédeurs envers les syndicats de police et envers les policiers, pour bien comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, si la police fait l'objet de toutes leurs attentions à ces gens-là, c'est qu'ils savent pertinemment que la police est leur garde prétorienne. Et je trouve que c'est ma manière à moi de conclure ça, et que nous, on a intérêt citoyen. L'observatoire des pratiques policières, ça n'est pas que des adhérents de la LDH ou des Copernic. C'est aussi des personnes qui ne sont pas ni à Copernic, ni au SAF, ni à la Ligue des droits de l'homme, qui sont des citoyens qui nous ont rejoints parce qu'ils nous connaissent par des réseaux de cooptation, d'amitié, etc. C'est bien de le dire aussi.
Il y en a plusieurs.
J'en passe à plusieurs qui font partie des noyaux durs de l'OPP, qui ne. Tu sais, c'est pas qu'ils veulent pas être à la LDH, mais c'est pas leur porte d'entrée pour venir à l'Observatoire. Et donc, si des gens veulent contacter l'Observatoire, ils peuvent le faire pendant les manifs, ils viennent nous voir. On est prêt à discuter avec eux. L'Observatoire des pratiques policières ne recrute pas. On n'est pas en job dating là, hein, etc. Parce que c'est un travail complexe qui peut pas se faire comme ça. Mais venez en discuter avec nous.
On est ouvert.
Et on est très ouvert à ça. Mais on n'est pas des forcenés du recrutement. Mais on a très grouillamment des personnes qui viennent après une forme d'apprentissage, si je puis dire, parce que on a besoin nous de rester sur les fondements de notre travail. On ne mélange pas le fait de manifester, le fait d'observer. Hein, je crois que c'est important à rappeler encore, et que voilà, c'est une manière pour moi de conclure.
Je voulais parler moi aussi quand même d'Amnesty International,
oui.
qui se positionne. Mmh. Je voulais aussi parler de la défenseuse des droits Claire Hédon, qui oui. Mène aussi des enquêtes.
Même son précédeur tout bon, donc on connaît le parcours politique, avait été dans son genre relativement clair, hein, sur la problématique autour du droit de manifester.
Il y a le premier syndicat de journalistes qui alerte sur les violences et entraves à la liberté d'expression. Début du pré-générique, tu t'interrogeais sur l'état de notre démocratie où il était dangereux de participer à une manifestation. Donc oui, on peut potentiellement y voir un glissement. Un truc qui me semble super important, c'est la loi sur la sécurité globale. J'aimerais bien écouter un petit son parce que c'est l'utilisation des images. Ça me semble fondamental.
Depuis sa création, l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse a couvert environ 150 manifestations et rassemblements de rue à Toulouse, a engrangé des dizaines d'heures de vidéos et des milliers de photographies. Ce sont d'ailleurs ces photos et ces vidéos qui ont largement alimenté notre rapport publié en avril 2019. Et ce sont toujours ces photos et ces vidéos qui continuent un peu au fil de l'eau, jour après jour, à alimenter notre page Facebook. L'évolution réglementaire et législative en cours est extrêmement inquiétante. D'abord par le schéma du maintien de l'ordre de Darmanin qui prévoit que tout observateur, tout journaliste restant présent dans l'aire d'action des policiers après sommation peut être assimilé à un manifestant casseur et traité en tant que tel. ça veut dire gazage, matraquage, voire mutilation. Deuxième point, la loi sur la sécurité globale prévoit, elle, une criminalisation de cette action de vigilance citoyenne qui consiste à prendre des photos et des vidéos de policiers en action, sous prétexte de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des policiers, on pourra se voir condamné à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Ceci est extrêmement inquiétant pour nos libertés publiques. L'Observatoire Toulousain des pratiques policières continuera, dans les semaines et les mois qui viennent, à filmer et à photographier les policiers. L'Observatoire Toulousain des pratiques policières sera seul juge des conditions et des modalités dans lesquelles nous diffuserons photos et vidéos.
Ouais, c'est vrai, Jean-François, tu l'as dit tout à l'heure, c'est possible, c'est autorisé, on peut filmer.
Tout à fait, on peut filmer la police dans l'espace public sans aucun problème, malgré éventuellement ce qui peut être dit. J'ai l'impression que c'est arrivé à passer dans les mœurs quand même, que la police arrive à admettre ce genre de choses-là, mais encore une fois, rappelons-le, effectivement, on peut tout à fait le faire. Et c'est important de le faire quand on regarde aujourd'hui un certain nombre d'affaires qui arrivent péniblement dans les audiences. Hein, les vidéos sont des éléments de preuve majeurs dans le cadre d'une procédure qui est une procédure judiciaire. Donc, la transparence est de mise.
Absolument. Et sur cet aspect-là, sur les vidéos, l'Observatoire n'a pas pour objet premier d'avoir une action judiciaire. Enfin, dans tout. Par contre, nous avons été sollicités plusieurs fois par des avocats nous demandant de mettre à leur disposition, pour la défense de prévenus, nos images, nos rapports et tout ça. Nous en avons discuté rapidement à l'Observatoire, nous avons accepté le principe, disant qu'effectivement, il nous semblait logique, étant donné qu'on livre du matériau brut. Hein, c'est une vidéo, chacun va l'analyser. Nous avons donc plusieurs fois ces derniers temps, y compris encore dernièrement lors du procès d'Odile Morin, la passionneria en fauteuil des Gilets jaunes et autres manifestants toulousains. C'est une de nos vidéos qui a servi à contrer le discours de la police concernant ce qui s'était passé face à un canon à eau. Et donc, ce travail d'observation est souvent recoupé avec des photos et des vidéos prises par des manifestants eux-mêmes. C'est pour ça que je revendique beaucoup le fait que nous filmions avec des smartphones. Nous ne sommes pas équipés de matériel de reportage.
C'est le choix, ouais.
C'est pour montrer que n'importe quel citoyen peut à tout moment filmer, prendre ce qui lui semble logique et normal et tout. Après, il y a les conditions de diffusion qui sont une autre histoire.
C'est autre chose, ouais.
Hein,
diffusion, c'est autre chose.
Nous avons, par exemple, encore la manifestation du 6 avril, était interpellé par un capitaine des CRS à Roguet, à Saint-Cyprien, qui est venu vers moi, je filmais le rang de policier et tout. Il m'a dit « Vous pouvez me filmer, mais vous savez, hein, vous n'avez pas le droit de diffuser les photos ». Ah, j'ai dit, mais monsieur le CRS, je filme, effectivement, j'ai tout à fait le droit de filmer. Et puis la diffusion des photos, de toute façon, ça n'est pas notre culture à nous de diffuser n'importe comment des images. C'est au principe de diffuser des images, c'est pas la pratique de l'OPP, etc. Mais je ne vais pas régenter non plus ce que font les citoyens. Mais nous, à l'OPP, la position est claire là-dessus, effectivement. Nous faisons un usage, proportionné et intelligent des images. Nous avons une fois publié une vidéo avec le visage d'un policier qui était un commissaire de police dans un cadre très particulier pour analyser l'équipement et le comportement des policiers. Et nous l'avons fait en toute connaissance de cause parce que tout pour bien montrer ce qui se passait. Mais globalement, effectivement, toutes nos photos sont floutées en général, faut le savoir, et tout. Concernant, deuxième chose, c'est le port du RIO
oui,
que tu avais abordé. Donc ce référentiel
individuel et d'organisation.
Ouais, référentiel I et d'organisation. En tout cas, c'est le numéro à quelques chiffres que doivent avoir sur leur uniforme visible l'ensemble des policiers quand ils sont en activité, d'accord. Très vite, nous, à l'OPP, on s'est aperçu que c'était du pipeau. Hein, que quasiment aucun policier les portait. Et on pouvait penser qu'avec le temps, parce qu'ils ont été rappelés à l'ordre plein de fois, hein, y compris par Castaner. Oui, Castaner, un jour, a dit « Bah ouais, le RIO, et j'ai fait faire passer des instructions pour que les policiers portent le RIO et tout. » Bon, en gros, statistiquement, on s'est intéressé à l'OPP, on a fait beaucoup d'observations, en filmant les rangs de policiers comme ça, Après, en décryptant les bilots, on regarde le nombre de policiers qui le portent. En gros, on peut dire que satisfaction pifométrique, parce que là, je suis obsédé des statistiques, bah, pas à ce point-là, on peut dire qu'il y a un tiers des policiers qui portent le RIO. D'accord ? Quelquefois, dans certaines unités, il y en a un peu plus. Et quelquefois, il y en a zéro.
Parce que si on doit se retourner contre un policier, il faut bien pouvoir l'identifier.
Alors, voilà. RIO doit être marié avec cagoule. Parce que faut savoir qu'ils ont deux manières.
C'est les vases communicants.
Oui, ils ont deux manières de s'anonymiser, les policiers. Et qui va avec l'impunité qui leur est donnée implicitement par leur ministre quand ils couvrent toutes les exactions. C'est le non-port du RIO, bien évidemment, ou le port caché ou partiel. Ou ah, mais il est sous mon gilet pare-balles.
Ça, c'est assez classique. Oui. On ne le voit pas parce qu'il est dessous.
C'est pas de ma faute. Avec tout l'équipement qu'on a, où le col bête. Ah, bah, l'idée, c'est qu'il y a le bête là, pas bon, etc. Et puis, deuxièmement, le port de la cagoule. Il y a pourtant le schéma national du maintien d'ordre est clair là-dessus. Le port de la cagoule n'est réservé qu'à des unités d'intervention précises, dans des cas précis, etc. Et nous, on a publié sur la page Facebook de l'OPP, je vous invite à aller voir des photos, y compris d'officiers de police judiciaire. Le gars avec l'écharpe bleu-blanc-rouge, le mégaphone à la main, qui est complètement cagoulé, y compris avec une cagoule qui lui prend y compris les yeux. Hein. Le visage est totalement... Hein, tout. Et ça fait penser à une image un peu, vous savez, du bourreau. Le bourreau qui coupait les têtes, il était cagoulé pour pas qu'on le reconnaisse, hein, d'accord ? Donc, drôle d'analogie entre ce bourreau qui exécutait les gens et le policier qui est là avec son mégaphone, qui représente donc la République, parce qu'il a l'écharpe le blanc-rouge. Hein, cette République anonyme de la violence policière nous pose problème. Et ce cagoulage, aujourd'hui, est une pratique systématique. On peut dire l'hiver, il fait froid, les policiers sont des cagoules, parce que, comme tout le monde, on se protège. Bon, moi, j'ai pas de cagoule, quand il fait froid, j'ai une écharpe éventuellement autour du cou. Mais ils la portent aussi en plein été par 40 degrés en extérieur, d'accord ? Donc, il y a une volonté assumée de la part de nombre des policiers de s'anonymiser. Et pour cela, ils nous sortent souvent l'argument qui est en partie recevable de ce qui s'est passé à Magnanville, en région parisienne, où effectivement, après la publication de photos de policiers dans les réseaux sociaux, au moment des trucs antiterroristes, au moment du cachère et tout, il y a eu deux policiers qui ont été flingués chez eux par trucs sur la base de leurs photos. Hein, ils avaient donc identifié, retrouvé leur adresse, ont été flingués sur place. Donc on nous a dit, et d'ailleurs Nelson Boire, le DDSP, nous avait dit ça à la préfecture le premier jour où ils nous ont reçus, enfin la seule fois où on a été reçus, en disant, vous vous rendez compte, nos gars, ils sont traumatisés par cette affaire-là. On veut bien l'entendre. Je veux bien l'entendre, je ne suis pas non plus un espèce de bestial. Mais ça ne se justifie pas. Dans les manifestations de rue syndicales et tout qu'on a à Toulouse, les gens qui manifestent ne sont pas des terroristes, etc. Et que je sache, depuis Magnanville, qui était une opération là qu'on peut qualifier carrément de terroriste, au sens de gens qui prennent des armes pour aller flinguer précisément une personne physique, un policier en l'occurrence, mais jamais la publication de photos de policiers n'a justifié le fait qu'ils soient soumis au lynchage public. Donc cette explication autour du port de la cagoule, du port du RPO, ne sert en fin de compte qu'à renforcer cet sentiment total d'impunité qu'ont beaucoup de policiers en disant « je fais ce que je veux, en fin de compte, je ne serai pas reconnaissable », et étant donné qu'ils sont couverts par leur hiérarchie, à leur ministre et pas à leur syndicat, on connaît le résultat qui est, c'est qu'il y a rarement des policiers condamnés, non pas parce qu'ils ne sont pas poursuivis, mais parce qu'à un moment donné, on dit, ben, on ne peut pas savoir qui c'était. Donc, étant donné que la justice ne condamne pas une compagnie de CRS, mais condamne un CRS parmi la compagnie, il n'y a pas de sortie là-dessus, ce qui est quand même une forme de déni de justice terrible pour les manifestants.
Et
les éborgner, les mutiler, c'est effrayant. Je veux dire, quand vous avez perdu un œil et vous savez pertinemment que c'est les polices et que le jugement que vous avez rendu, c'est « Ok, vous avez perdu votre œil, mais on ne sait pas qui l'a fait ». Non, c'est pas possible.
C'est à la fois quelque chose qui construit de l'impunité, c'est aussi quelque chose qui construit l'isolement d'un esprit de corps, d'une espèce de corps social qui serait assiégé.
Hein,
parce qu'on a beaucoup le discours autour de la question, voilà, de la métaphore comme ça, de la forteresse assiégée qui serait l'objet de toutes les violences extérieures et qui d'une certaine manière ne ferait que se défendre et qui permet d'ailleurs l'irresponsabilité individuelle, là, le cadre qui est le cadre d'un groupe comme ça, complètement cohésif. Tous les gendarmes, tous les policiers sont les mêmes et quand il y en a un qui a un comportement quasiment de transgression de la loi ou de la règle, eh bien, on se tait. Hein, et les policiers, en règle générale, mentent pour couvrir leurs camarades. Et ceci ne fait encore une fois qu'accroître la coupure qu'il peut y avoir entre le reste de la société et ce groupe-là. Là aussi, c'est très dangereux pour la démocratie, cette affaire.
La guerre prétorienne encore.
Demain, grosse manif.
Oui.
10h, je crois.
Oui.
Ça s'y prie, gars.
Donc, a priori, 10h, ça limite, non, les problèmes.
Non, je ne crois pas, mais de toute façon, c'est totalement imprévisible ce qui va se passer. Parce que vous voyez bien, je disais l'autre jour, il y a eu une action annoncée d'ailleurs à l'avance hein, des policiers disant on ne tolérera rien, etc. C'est le discours qui est la petite musique qu'on entend en ce moment, qui arrange beaucoup nos gouvernants, hein, bien évidemment, de dire de toute façon, il va y avoir des incidents, donc c'est normal qu'on soit là et qu'on tape dans tous les sens. Sainte-Soline a été précédée par une campagne de presse orchestrée par le ministre de l'Intérieur, par la sous-préfète, annonçant l'avenue des barbares avec leur âge, enfin, etc. Pour mémoire, c'est vieux comme le monde. Je suis un vieux militant. J'évoquais peut-être tout à l'heure la manifestation de Malville en 1977. J'ai souvenir, moi, j'avais 22 ans à l'époque, que la manifestation de Malville avait été annoncée par une campagne de presse hallucinante. Sur les fameux cirés jaunes allemands qui allaient venir nous envahir. En plus, c'était des Bosch. Hein. Ben, je caricature.
C'est les Black Blocs de l'époque.
Ouais, les Black Bosch. Ils étaient en cirés jaunes. Ça avait été mené par une campagne de presse absolument délirante qui avait annoncé à l'avance ce qui allait se passer. Donc, ces gens-là, on parlait d'un continuum tout à l'heure entre avant. Eux, ils sont aussi dans le continuum. Avant, ils annoncent qu'il y aura des incidents et qu'il va y avoir des hordes de gens qui vont venir attaquer ces pauvres policiers qui n'en peuvent mais. Pendant, vous vous rendez compte, ils ont fait que se défendre. Et après, il faut condamner tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce genre d'action et on communique et on extrait les images avec la complicité, il faut le dire, quand même, d'une tapée de médias qu'on a fait mainstream.
Vous savez, la presse, la préfecture.
Vous revenez de Sainte-Soline et des amis vous racontent ce qu'ils ont vu à la télévision, c'est hallucinant.
Mais Darmanin a parlé des secours avant même que l'information commence à circuler autour des blessés graves. Ouais. Darmanin expliquant que c'était le fantasme toujours des Black Blocs et pas des individus d'ailleurs, mais le Black Bloc qui empêchait les secours d'arriver. Donc il a anticipé la polémique en fait en mentant une nouvelle fois.
Et d'ailleurs le rapport qu'on est en train de préparer autour de Sainte-Soline entre les 5 observatoires parisiens, bordelais, Poitou-Charentais, Seine-Saint-Denis, oui, on était 5 observatoires, on a fait une opération coordonnée, l'observation qui était importante, démontra très largement ça, on a toutes les preuves, y compris parce que les avocats observateurs, qui sont aussi avocats de la LLH, qui étaient présents sur le site, on était en alerte rouge par rapport à ces problématiques de blessés avant même la manifestation, parce qu'on savait que les policiers allaient essayer éventuellement d'aller choper les blessés dans les installations de secours s'il y en avait. Et donc on avait décidé d'aller observer plus particulièrement ce qui se passait autour des tentes de fortune qui étaient montées autour d'éventuels blessés. On ne s'attendait pas à la boucherie non plus à laquelle on a assisté. Et donc on a toutes les preuves qu'effectivement il y a eu une obstruction à la venue des secours qui a coûté sans doute très cher à Serge. Et tout, parce qu'on sait que dans ces cas-là d'urgence absolue, plus on intervient vite. Et encore, je pense qu'il a eu de la chance qu'il y ait eu une médecin urgentiste qui soit manifestante et qui soit là et qui ait pris d'emblée les gestes nécessaires à faire qu'il soit qu'il ne décède pas sur site. Mais ce qu'on raconte dans notre rapport sera très clair là-dessus. On a la chronologie exacte de tout ce qui s'est passé. Et là, on va démontrer que M. Darmanin ment.
C'est une nouvelle fois. C'est ce que ne supporte pas M. Darmanin. C'est pour ça qu'il en veut beaucoup à la LDH et aux observatoires associatifs.
Et j'espère que ça fera jurisprudence, que ce rapport servira.
On l'espère au niveau aussi. Alors, comment vous dire, également, les jours, on fait œuvre de. Ça peut nous déprimer parce que on a depuis 6 ans, on documente beaucoup, on a beaucoup travaillé, on a publié nos rapports, on a fait nombre de communiqués, on a beaucoup publié des vidéos, toujours avec parcimonie, mais précise, hein, etc. Toujours. On doit reconnaître que, d'abord, il y a des générations de manifestants qui passent et qui ne sont pas les mêmes. Alors, je veux dire, en ce moment, on est très interrogés sur, ah bon, c'est quoi l'Observatoire, par les jeunes en particulier. Alors ça, c'est plus intéressant. Hein. Les jeunes viennent nous voir et nous interpellent. Je dis, on fait de la pédagogie de terrain en ce moment, beaucoup, l'Observatoire, parce que les jeunes viennent nous interroger, les jeunes lycéens et tout.
Qui et vous parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les manifs. Aussi.
Dans les manifs de ces dernières semaines, il y a, les jeunes sont présents de plus en plus. Et ils sont surpris, beaucoup de jeunes femmes en particulier, hein, je dois le constater, qui viennent qui sont effrayés, enfin parce qu'elles ont vécu, par, etc., qui viennent nous interroger, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Alors on les aide à décrypter ce que c'est que la police, son organisation, les casques jaunes, les casques bleus, enfin les bandes jaunes, les bandes bleues, les vaqueurs, enfin on fait ce travail d'éducation populaire in situ, on va dire,
qui
est important sur le tas, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on a l'impression d'un peu d'être Sisyphe à pousser notre rocher. Tout le temps.
Mais il faut imaginer Sisyphe heureux.
Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et puis, par contre, bon, je pense qu'on a acquis une certaine forme de crédibilité, même une vraie crédibilité, dans pas mal de milieux, y compris chez les journalistes, qui nous ont vus à l'œuvre depuis 6 ans, qui savent très bien comment on procède, comment on est là, comment on travaille.
Journalistes qui sont eux-mêmes confrontés à des situations similaires.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé d'autres victimes comme les observateurs. Les observateurs, on s'en est pris plein la gueule. Alors, on ne va pas faire pleurer sur nous, mais enfin, depuis 6 ans qu'on existe, on a eu 4 camarades hospitalisés. On a été près d'une 40aine de fois pris à partie directement par les policiers, à coups de matraque, de grenades, enfin, etc. Donc, on arrête des choses à raconter sur les violences que nous-mêmes, on a subies. Mais ça fait partie de la règle du jeu, entre guillemets, malheureusement, de ça, on le sait, hein, en observant. Mais un mot quand même, par exemple, sur les secouristes volontaires et les street medics.
Tu en parles au tout début.
Sont terriblement victimes de ça. Et juste, pour mémoire, ce que m'a dit un commandant de CRS un jour, où il venait de balancer des grenades lacrymogènes dans la gueule des street medics qui étaient en train de soigner quelqu'un. Interpellé par moi, ce commandant de CRS, je suis allé le voir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui prévaut ce lancement de lacrymogène? Il m'a dit, et de toute façon, on sait très bien ce qu'on fait, parce que ces gens-là, ils soignent les manifestants, et comme ça permet aux manifestants de continuer à manifester et de revenir manifester. Donc c'est pour ça qu'on s'en occupe. Cynisme. Cynisme absolu. Même sur les théâtres de guerre, je crois pas qu'on entende des militaires dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par moments, je vous promets, c'est extraordinairement inquiétant. Il y a des jours où la vision qu'on a des choses pourrait nous faire totalement flipper.
Mais je ne voulais pas forcément terminer là-dessus, mais c'est vrai que j'ai revisionné beaucoup d'images, évidemment, d'interventions, de violences policières. On appelle ça même du riot porn. Et c'est impossible de rester neutre. Face à ces images, on ressent rapidement une espèce de rage, voire de la haine. Et je voulais savoir comment vous... Je parle vraiment des images, parce que le vivre, c'est une chose. Mais l'accumulation des images...
Non, okay. Je vais vous démentir. Enfin, je parle en mon nom personnel.
Ah, oui, vas-y. Je dirais.
Ma haine de la police n'a pas augmenté avec ce que j'ai vu. Je n'ai pas de haine de la police. Je le dis très directement. Je considère que la police, je l'ai définie politiquement, c'est une garde prétorienne. C'est aussi des gens qui, pour certains d'entre eux, ils vont joyeusement. Il n'y a pas que de pauvres policiers qui sont un peu égarés. Il y a aussi des vrais policiers qui sont des gens que je ne qualifierais pas plus que ça, mais on devine. Mais je n'ai pas de haine particulière. Et notre rôle d'observateur nous permet justement de sublimer ça. Je me sens utile quand j'observe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça justifie et tout. Et le fait qu'on analyse derrière... le comportement des policiers, qu'on n'en reste pas uniquement aux images brutes de la violence.
Sur l'émotion, quoi.
Voilà, qu'on dépasse cette émotion par l'analyse, par la documentation, par le fait de se sentir utile dans le travail qu'on fait, nous permet de ne pas virer justement dans une espèce de haine frénétique liée aux images et à ce qu'on a nous-mêmes proprement vécu, toute première chose. Et deuxièmement, quelque part, j'aime le monde, moi j'aime la société, je ne suis pas dans une logique de dire la haine est mon moteur. Ce qui est mon moteur à moi militant, c'est le fait de vivre pour un monde solidaire, d'avoir des relations d'amour avec les gens, de fraternité, d'être heureux. C'est ce monde-là pour lequel je me bats. Ils ne vont pas réduire mes rêves à l'obsession du LBD et de la grenade de désencerclement. Et quant à Sainte-Soline, j'ai posé mon cul après plusieurs heures de manifestation. J'étais cassé, crevé. Je me suis assis sur un muret en pierre. Et j'ai regardé défiler tous ces manifestants qui revenaient, en gros. Certains étaient bras dessous, d'autres se tenaient, d'autres chantaient en marchant, etc. On sentait une détermination, une forme réelle de gens qui n'avaient pas honte de ce qui venait de se passer, qui étaient effrayés pour certains d'entre eux, fatigués et tout, mais se dégageait une forme de... Voilà, on savait que les gens qui étaient venus là étaient là aussi présents pour quelque chose qui les dépasse, la défense de ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'intérêt général, une forme de légitimité, malgré les violences de la police. Et ça, c'est ça qui nous fait vivre. Et autrement, on se flingue, ou alors on prend le fusil et on va tirer dans le tas. Et on n'est pas, je ne suis pas dans cette position-là. Et c'est grâce à cet effet quasi thérapeutique de l'observation, de l'analyse, de la conceptualisation, de la politisation de mes réflexions, qu'aujourd'hui, je me sens quelqu'un de relativement équilibré quand j'observe la folie. Et ça, c'est un bien pour un mal. Mal pour un bien.
Oui, oui. Je partage, à part ce que tu peux évoquer concernant Sainte-Soline, où je n'étais pas, mais sur le reste, je partage complètement. Je crois qu'il y a cette dimension de construction de la distance dans le cadre collectif qu'est l'Observatoire. Il y a y compris à des moments donnés, la dernière réunion, on pense que ce sera intéressant à des moments donnés aussi de se faire accompagner par des gens qui aident aussi à la distance, parce que il y a un engagement individuel quand les situations, le vécu est très violent. Donc on fait cet effort qui est aussi un plaisir à un moment donné de construire de la connaissance, de la réflexion, du positionnement sur du vécu brut. Et juste ce que je voudrais dire, c'est que je me dis des fois, c'est peut-être ce qui manque à certains niveaux dans la police. C'est-à-dire cette capacité qu'il pourrait avoir à un moment donné de se faire accompagner pour prendre du recul, du champ sur ce qu'ils sont en train de vivre eux. À partir des ordres qui leur sont donnés et des manipulations ultimes. Moi, je suis assez inquiet aujourd'hui de l'enfermement, de cette dimension de garde prétorienne dont on sait idéologiquement quelle dérive elle peut connaître. On connaît, les bureaux de vote proches des casernes de garde mobile nous permettent d'avoir une petite idée du type de vote qu'il y a là-dedans. On a un vrai enjeu politique démocratique autour de cette question-là. Et cette idée de montrer la réalité de ce qui se passe sur le terrain au-delà de ce qui peut se dire à l'intérieur d'un car ou dans une caserne ou entre collègues, je pense que ça peut contribuer pour autant que les gens qui sont aux responsabilités ne soient pas complètement bouffés par leurs ambitions, à réguler un petit peu quelque chose qui a tendance à prendre de plus en plus de violence. Voilà.
Ouais, donc nous sommes utiles. Et se sentir utile, c'est bien.
Pascal Gassio, Jean-François Mignard, merci. On va rester avec cette idée de symbolique de la distance. Bonne fin de journée à vous, merci, à demain merci. Dans la rue.
Et merci de nous avoir laissé le temps de développer les analyses. Souvent, on est pris dans des schémas d'échanges qui sont liés à la minute ou aux 3, 4, 5 minutes. Là, on a le temps de construire un raisonnement. Rien que pour ça, on t'en remercie. Et on réécoutera avec intérêt.
Avec grand plaisir.
Et on diffusera. Avec plaisir.
Merci à vous.
À très
merci
bientôt.
À toi, en tous les cas.
Merci. Au revoir.
Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre seule.